Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Bonjour à tous, ravi de vous
retrouver. Direction l'Ukraine à présent et la région de Bakhmout où l'on retrouve nos envoyés spéciaux qui couvrent la contre-offensive ukrainienne.
Qu'est-ce qui se passe? Une manifestante qui vient de s'attacher là au filet.
L'image.
Cette dernière journée de festivité, le drapeau a été hissé au-dessus du palais.
C'est une mission qui, sur la forme, était faite pour faire buzzer.
Après l'Alsace, les Vosges, mercredi, pour Emmanuel Macron.
Répondre. Écoutez,
vous me laissez parler, s'il vous plaît. Comment vous réagissez? Ce sont des méthodes autoritaires. On ne fait pas de pression assis.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide.
8 milliards de voisins, bienvenue dans le faux, le flot de l'information, j'en perds mon vocabulaire. Au réveil, vous jetez un coup d'œil sur vos fils Twitter, WhatsApp, tout en écoutant RFI et une radio nationale en même temps. Au petit déjeuner, vous enchaînez avec des vidéos choc sur TikTok ou Insta et les heures s'égrènent au rythme des alertes d'actu avant de terminer sur France 24 et le résumé d'une très mauvaise journée dans le monde. Guerre en Ukraine, guerre au Soudan, manifestations, attentats, inondations, réchauffement climatique. Il vous faut au moins un verre d'eau fraîche pour trouver le sommeil. Pas de doute, vous êtes rassasié, voire gavé d'infos. Et si c'était ça, la fatigue informationnelle, un robinet d'infos qui ne se ferme jamais. 53% des Français disent souffrir de fatigue informationnelle, au point que certains préfèrent tout simplement cesser de s'informer. Alors comment faire face à ce trop-plein d'actu? Et du côté des médias, s'intéressent-ils suffisamment aux bonnes nouvelles, comme par exemple la pauvreté qui a été divisée par deux en 30 ans? Nous allons discuter de cette info qui déborde avec un spécialiste maison, Steven Jambeau. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes journaliste, vous présentez l'Atelier des médias sur RFI et en podcast et vous êtes par ailleurs coordinateur éditorial des podcasts produits par RFI. On verra si le succès d'ailleurs des podcasts de l'info à la demande hein, d'une certaine manière et en version plus froide que le hot news, est-ce que ça peut atténuer cette fatigue? Également avec nous, Sylvain Parisi. Bonjour Parisi.
Bonjour, bonjour Emmanuel.
Vous êtes sociologue au Media Lab de Sciences Po Paris. Vous étudiez comment les technologies numériques transforment les manières de s'informer, de débattre, de s'engager dans l'espace public. Et nous serons aussi en liaison avec Augustin Perrault de Reporters d'Espoir, une association qui a pour mission de promouvoir dans les médias une information porteuse de solutions.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner si vous vous reconnaissez dans cette fatigue d'infos au 33 7 64 45 51 41 ou si au contraire, vous n'êtes pas rassasié. Sylvain Parisi, est-ce qu'on croule sous l'information ou est-ce qu'on croule sous la répétition de l'information dans le fond?
On pourrait dire d'abord qu'une partie des gens et sans doute des auditeurs qui nous écoutent croulent sous l'information, ce que vous avez un petit peu le portrait que vous avez fait en introduction, c'est-à-dire ces boulimiques d'information. On est sans doute nous-mêmes comme ça, une grande partie des gens qui nous écoutent, mais il y a aussi une grande partie des gens qui sont à l'écart de ça, hein, qui ne sont pas du tout concernés par la boulimie d'information et qui peuvent être aussi un peu déstabilisés d'une certaine manière. Mais pour répondre à votre question, oui, on peut, en tout cas, les informations sont effectivement à la fois souvent répétitives pour les gens qui les consomment le plus, et peut-être aussi parfois un peu stressantes, parce que négatives, et parce qu'aussi, elles sont aussi porteurs d'enjeux politiques très forts et aussi d'une certaine violence.
Ouais. C'est cette sensation, finalement, Steven Jambeau, de ne pas réussir à être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, la peur de rater quelque chose, hein, les anglophones disent « fear of missing ».
Le FOMO, oui, c'est ça.
C'est ça. Est-ce que c'est presque une crainte sociale, de honte sociale, parfois?
C'est ça. En fait, déjà, il faut aussi dire que l'information, ce n'est pas seulement l'actualité.
tout est information dans le monde. Et donc, même une notification Facebook que vous recevez sur votre téléphone, c'est de l'information. Je parle du téléphone. Nous sommes des milliards de voisins et de voisines à avoir un téléphone intelligent, un smartphone dans nos poches, qui est en mesure de nous solliciter même quand on ne le demande pas. Donc, face à cela, on est devant un trop-plein. On a de l'information partout. Quand on prend la voiture, quand on prend le bus, on entend l'autoradio. Quand on passe quelque part dans la rue, on voit des informations. Et maintenant, jusque dans nos poches, effectivement. Et face à cela, psychologiquement, en fait, on se retrouve dans une situation qui peut être parfois ressentie par certains comme de l'oppression.
Ouais, de l'oppression, mais d'autant plus, parce que c'est vrai aussi, Sylvain Parasi, c'est qu'on a une actualité qui est quand même assez déprimante, d'autant plus qu'elle tourne en boucle, vous l'avez dit. Le mot qui revient souvent, c'est la violence de l'info dans les médias.
Oui, tout à fait. La répétition est effectivement assez forte. Je dirais aussi que, et c'est tout à fait ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée que en même temps, on a cette consommation qu'on appelle incidente de l'information. C'est-à-dire qu'effectivement, on tombe sur l'actualité alors qu'on ne l'avait pas forcément prévu. Et ça, c'est ce qu'on pourrait appeler aussi la crise du rituel. Finalement, classiquement, les médias, on les consommait de manière rituelle, c'est-à-dire à un moment donné, et puis
le
aussi,
journal télévisé,
voilà,
le soir
le journal
en famille,
télévisé,
par exemple.
Voilà, mais aussi d'autres pratiques, le journal papier dans les transports, voilà, tout, et puis la radio dans sa voiture, évidemment. Tout un ensemble de rituels très, très précis. Et là, c'est vrai que l'essor de l'information numérique et sur les médias sociaux, finalement, nous expose à des informations qu'on n'est pas allé chercher directement.
C'est ça, et puis il y a l'idée de ces carrefours de l'information, effectivement, que l'on avait auparavant. Les carrefours de l'information, c'est souvent le matin, donc ces fameux matinale radio qu'on écoute de 6h à 9h, ensuite la tranche de la mi-journée, voilà, le journal télévisé de 13h par exemple que l'on a en France, et puis après le soir, la grand-messe du 20h, etc. Mais maintenant, on se retrouve à être en permanence devant des informations qui nous arrivent effectivement même quand on ne le demande pas, et puis après il y a les phénomènes des réseaux sociaux qui font que ces informations elles nous remontent, et de plus en plus par recommandation, c'est-à-dire qu'on choisit de s'abonner à des comptes de telle ou telle personne, à la page Facebook de telle organisation, par exemple, qui fait que même quand on n'a pas envie de consommer de l'information, elle arrive à nous. Et si on a encore envie d'aller un petit peu plus loin, il y a aussi tout ce phénomène de bulle de filtre, comme on appelle, on y reviendra peut-être. C'est le fait que justement, sur Facebook, il y a des algorithmes qui sont à la manœuvre et qui vous font remonter des informations en fonction de votre activité. De vos centres d'intérêt, de ce que vous, lorsque vous cliquez sur « j'aime », lorsque vous commentez sous un post, vous allez voir davantage remonter ce type-là de contenu dans votre fil d'actualité, ce qui peut, encore une fois, vous donner une impression de trop-plein.
Mmh. Et des réseaux sociaux qui participent à la surenchère, à l'inflation de l'actualité, parce que, du coup, si c'est relayé par les réseaux sociaux, forcément, ensuite, ça va être relayé souvent, pas toujours, mais par un média classique qui se dit « je dois le traiter parce que c'est très relayé, très commenté, et ça fait boule de neige ».
C'est ça. En fait, les journalistes, dans leur traitement de l'actualité, ont toujours envie de s'emparer de sujets qui sont conversationnels. Un média qui réussit, on le dit depuis plusieurs années, c'est un média qui réussit à s'inscrire dans les conversations, donc qui réussira à sortir un sujet et faire qu'il va faire parler sur les réseaux sociaux, qu'il va être commenté et que ça ait le maximum d'impact possible.
Ouais. Les messages violents sur les réseaux sociaux, on en parle beaucoup. Est-ce qu'on sait dans la réalité à quel point ils sont minoritaires, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ?
Alors, faut d'abord savoir ce qu'on entend par message violent. En fait, la situation, et je rebondis sur la question des bulles de filtre, parce que c'est évidemment quelque chose de très, très important, qui est dans notre représentation collective sur notre consommation de l'information. En réalité, les études empiriques nuancent considérablement les choses. C'est-à-dire que, et d'une manière assez contre-intuitive, notamment le sociologue Christopher Bale a montré ça de manière très, très convaincante, c'est que c'est plutôt le fait que la plupart du temps, on est plutôt exposé sur les réseaux sociaux à des opinions qui vont dans notre sens, selon nos préférences, mais aussi selon des orientations opposées aux nôtres. Et c'est ça qui est le plus stressant. Et c'est ça qui est le plus radicalisant d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça va nous pousser à davantage mettre en avant notre propre identité et se démarquer de ce qu'on voit.
La globalisation aussi, vous le disiez, Stephen Jambeau, effectivement, maintenant, on a tous cette sensation qu'on est bien 8 milliards de voisins, que tous les problèmes nous touchent et nous concernent. C'est dû à la globalisation, au traitement de l'information, un traitement qui est toujours très concernant de la part des médias et des réseaux sociaux, avec la force des témoignages, la force des récits, que ce soit pour les migrants, que ce soit pour les victimes des conflits. Donc, on rentre dans ces histoires et c'est d'autant plus stressant, d'autant plus angoissant finalement.
Oui, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel, on est dans une période de multiples crises. On a eu le Covid, les guerres en Ukraine, les soubresauts du Soudan, de la République démocratique du Congo, l'urgence écologique qui fait qu'on est face à une accumulation monumentale de choses et qui nous prend dès le réveil parfois. Parce que voilà, il y a une étude pareille qui expliquait que la première chose que font de plus en plus de gens le matin, c'est de prendre leur téléphone et regarder Facebook avant même d'aller aux toilettes ou de prendre l'air, de se faire un café, c'est plutôt déjà de regarder ce qui se passe pour ne pas avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, pour eh bien, être un animal social, être en mesure d'arriver le matin, rencontrer ses collègues et d'avoir des sujets de conversation et de ne pas être, avoir l'impression d'avoir raté quelque chose.
Voilà. Alors cette sensation de trop-plein, on en discute et on va essayer de voir aussi où est-ce qu'elle est pratiquée quand les gens veulent tout simplement couper le robinet de l'info.
8 milliards de voisins.
On échange.
Bonjour à tous les auditeurs des RFI.
8 milliards de voisins, on est ensemble.
Sylvain Parasi, depuis plusieurs années, l'Institut Reuters pour l'étude du journalisme observe une baisse de l'intérêt pour les actualités. Donc, en gros, c'est ce qu'on appelle le hot news, hein, ce qu'il se passe à un instant T dans le monde. 51% en 2022 contre 63% en 2017, ça reste encore très important, mais est-ce qu'on retrouve cette tendance dans d'autres pays qui ont une information libre ?
Oui, c'est un phénomène assez spectaculaire. Effectivement, on voit un déclin de l'intérêt pour l'information dans de nombreux pays, avec des distinctions. En fait, on voit que c'est particulièrement marqué en France, c'est très marqué aux États-Unis également, c'est marqué en Grande-Bretagne. Mais il y a des pays du nord de l'Europe, par exemple, où c'est beaucoup moins marqué, et d'autres pays également où c'est beaucoup moins marqué. Je pense que si on essaie d'expliquer les choses, il y a aussi comment les médias et comment l'information est organisée selon chacun des pays. Et je pense que c'est aussi beaucoup lié à la question de la fabrication de l'agenda. Hein, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide comme étant l'information, vraiment les informations les plus importantes, sachant qu'il se passe tellement de choses dans le monde que c'est impossible de tout couvrir, évidemment. Et par exemple, si on prend le cas de la France, nous, on a un agenda très national. C'est-à-dire qu'on a un ensemble de thèmes chaque jour que pratiquement tous les médias évoquent, avec une répétition très importante. Là où, dans d'autres contextes nationaux, c'est moins fort. Il y a plus de diversité.
Alors, quand on n'a que 51% qui s'intéresse à l'actu, ça veut dire que le reste s'intéresse à quoi ? À des sujets sport, à des sujets cuisine, enfin, le sport, c'est de l'actu, mais je veux dire, à des sujets moins stressant, moins angoissant, Stephen Jambeau ?
En fait, l'idée, c'est plutôt de se dire que chacun a le régime informationnel qu'il se choisit. L'information, maintenant, comme vous le disiez tout à l'heure, Emmanuel, est mondialisée. On a une multiplicité de sources, de médias qui nous proposent l'information que l'on a envie de regarder, d'écouter, de lire. Donc, à chacun d'essayer de s'emparer de ce dont il a envie. Effectivement, on peut se dire que moi, qui aime beaucoup le football, par exemple, je vais choisir de suivre un média foot. Si j'aime beaucoup la musique, eh bien, je vais écouter une radio musicale ou m'abonner à mes sites d'écoute en ligne. Et puis, si j'aime beaucoup l'actualité dure, eh bien, voilà, je vais choisir d'écouter telle radio, je vais lire tel site internet. Mais je ne lis pas une seule source d'information. Plus personne ne peut dire maintenant, chaque jour, je ne lis que Le Soleil, chaque jour, je ne lis que le journal Le Monde, chaque jour, je n'écoute que RFI.
D'où cette sensation, en fait, de trop plein d'infos qui ne se terminent jamais.
Non, ça se termine jamais, mais en même temps, je veux dire, nous sommes captifs, et j'ai envie de dire, on le veut bien, mais on ne se rend pas toujours compte que l'on se retrouve un petit peu en situation de victime de ce trop-plein. Et je veux dire, moi-même, dans ma vie personnelle, il m'est arrivé
j'allais vous poser la question.
Mon épouse qui me dit, mais tu te rends compte que tu es toujours sur ton téléphone, Steven ? Et elle a raison, mais on ne se regarde pas suffisamment parfois dans le miroir face à cette infobésité.
Ouais, c'est 53% de Français qui souffrent de fatigue informationnelle. 38% en souffrent même beaucoup. Donc on retrouve ça dans d'autres pays, pas partout. Vous le disiez, Sylvain Parasi. Mais c'est pas qualifié de pathologie. Hein, c'est pas pris en compte par la médecine. C'est un phénomène de société. Juste.
C'est totalement un phénomène de société. Je pense que c'est un phénomène assez complexe. hein, assez complexe, parce que j'aime beaucoup l'exemple que vous prenez, mais très souvent, et vous le faites aussi, c'est-à-dire qu'on prend soi-même comme exemple. Et c'est ça, souvent, un gros problème, c'est qu'en réalité, la consommation de l'information, elle est très dépendante du statut économique, socio-économique. Hein, c'est-à-dire que, clairement, niveau de diplôme et niveau de revenu vont en grande partie expliquer le goût pour l'information et cette boulimie d'information. Alors évidemment, à l'échelle individuelle, ça peut varier, mais c'est quand même très, très important. Et quand on essaye d'enquêter justement sur pourquoi une partie des gens sont mal à l'aise, en fait, il faut tenir compte de la diversité des situations. Il y a des gens un peu comme nous, on pourrait dire, c'est-à-dire des gens plutôt urbains, diplômés, etc. Là, c'est effectivement cette boulimie d'information qui peut être très, très difficile à vivre. Aussi pour un phénomène, il y a deux phénomènes principaux. Il y en a un, c'est la question de la répétition, parfois, qui est difficile à vivre. Et la question du choix également, c'est-à-dire pourquoi on m'imposerait tel sujet alors que fondamentalement, je ne le trouve pas intéressant. Donc clairement, la campagne présidentielle, quand on est en 2022, que les médias parlent d'Éric Zemmour en permanence, bah, une grande partie des gens se disent « Est-ce qu'Éric Zemmour, c'est vraiment le cœur de ce qui importe aujourd'hui ?»
On a vu le résultat dans les urnes,
voilà,
d'ailleurs.
On a vu le résultat dans les urnes. Le deuxième élément qui peut-être peut aussi vous concerner, c'est l'injonction de notre entourage à prendre position sur l'actualité. Et c'est ce qu'on appelle aussi les processus de politisation de l'actualité. C'est-à-dire qu'on est dans des sociétés où le populisme est très fort, on a des contestations politiques très très fortes, et plutôt que de se dire on est de gauche, on est de droite, etc., on va réagir à certaines informations. Et le fait de s'intéresser à certaines informations et de réagir est un marqueur politique très fort qui aussi est un peu déstabilisant. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, non seulement je dois m'intéresser à l'information, mais en plus je dois prendre position et je vais être sous le regard des autres qui vont me dire j'ai pas réagi, je me suis pas intéressé, etc.
La question de la nuance, effectivement, nous sommes de moins en moins dans un monde de nuances. On est obligé effectivement d'être pour, d'être contre. Et le problème, c'est que les médias, justement, pour créer de l'information
et le buzz,
il s'empare de sujets en regardant ce qui est débatogène. Voilà, il y a de plus en plus de médias qui font des débats toute la journée sur tout et sur n'importe quoi, qui l'alimentent, qui le suralimentent
avec du clash
et qui pour lancer ces débats là regardent ce qui se dit, ce qui se passe sur les réseaux sociaux où effectivement sur Facebook par exemple les sujets qui engagent le plus sont souvent ceux qui sont les plus outranciers, ceux qui déclenchent le plus de messages véhéments et pas du tout ceux qui sont de façon ceux qui souhaitent apaiser le débat.
Mais alors, l'envie de se déconnecter, quand les gens disent ben non, finalement, moi maintenant, stop, je ne veux plus m'informer, je m'informe très très peu, j'ai tout coupé. Ça veut pas dire couper les réseaux sociaux au sens son cercle d'amis, etc., bien sûr. Hein. Couper le fil de l'info, le robinet de l'info. Est-ce que c'est un luxe pour des gens très éduqués ou est-ce que ça peut aussi toucher des gens qui se disent de toute manière, ça me dépasse. Et qu'on soit d'ailleurs très éduqué ou pas éduqué, on est dépassé par les événements aujourd'hui.
Oui, c'est ça qui est un peu paradoxal. C'est que finalement, le fait de se couper, il y a de larges franges de nos sociétés qui sont coupées depuis longtemps de l'information. Hein, donc, c'est pas forcément une décision active, en tout cas, de vouloir se déconnecter. Et puis, pour une partie des gens, effectivement, il y a une volonté de se couper de l'information. Mais en fait, elle est toujours sélective. Hein. Cette coupure est toujours sélective. C'est-à-dire que ça va concerner certains thèmes, certains médias, certaines circonstances. Par exemple, je voyais qu'il y ait une anecdote comme ça, assez intéressante, qui est que le pays dans le monde où on... Et en tout cas en Europe, où on est le plus déconnecté de l'information sur l'Ukraine, c'est la Finlande. Voilà, la Finlande. Bon, on imagine bien que pour les Finlandais, c'est quelque chose de particulièrement urgent, de particulièrement
difficile.
Elle est totalement voisine de la Russie, donc c'est très compliqué. Et donc, on a plus de 70% des gens qui, effectivement, déclarent se couper en partie des informations sur la guerre en Ukraine.
Ça veut dire que là, c'est un réflexe d'autoprotection, d'une certaine manière, hein, de remettre de la frontière là où la porosité est évidente.
Ben, effectivement, l'idée, c'est plutôt d'essayer de s'interroger face à ce flot d'informations. Doit-on moins s'informer, en fait, et donc aller peut-être pour certains, aller jusqu'à faire une digital détox, comme on dit, donc se couper de tout ce qui est numérique et abandonner son smartphone pour ne prendre un vieux téléphone Nokia 3310 qui ne fait que téléphoner et envoyer des SMS. Certains vont jusqu'à faire ça, au risque parfois de se sentir isolé de ses amis, comme on dit, parce que voilà, on a nos amis...
Comment ça, t'es pas au courant ?
Voilà, et puis tu ne sais pas qu'un tel s'est marié, et pourtant il en a parlé sur Facebook, il en a parlé sur Instagram. Tu n'es plus dans le groupe WhatsApp du quartier, de la famille, donc tu ne vois plus nos photos, comment peut-on te les faire partager ? Et donc face à cela, on peut essayer de se dire, essayons de mieux nous informer, donc de choisir ce que l'on veut recevoir, mais aussi de choisir quand on veut recevoir des informations. Parce que si on regarde notre temps de connexion, on passe de plus en plus de temps connecté actuellement. Et ça, nos auditeurs qui ont un téléphone, que ce soit un téléphone sous Android ou un iOS, peuvent, ou un iPhone, peuvent voir leur temps de connexion sur chaque application en allant dans les paramètres. Et ils vont peut-être se rendre compte qu'effectivement, ils passent plusieurs heures, plusieurs dizaines d'heures, peut-être par semaine, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, etc. Et donc là, peuvent être amenés à recréer des moments dans leur journée où ils vont choisir de se connecter à telle application plutôt que d'y aller matin, midi, soir, et puis de 10, 15 fois, 100 fois par jour.
Eh bien, c'est exactement ce que fait un de nos auditeurs, Yambré, qui est dans le nord-ouest du Togo. Il nous dit, moi, pour ne pas me laisser envahir par l'actualité, je sélectionne ce que je regarde ou ce que j'écoute. Et vous pouvez bien sûr nous téléphoner si vous avez cette sensation de robinet de l'info qui ne s'arrête jamais. Vous pouvez nous appeler au 33 7 64 45 51 41. Vous écoutez 8 milliards de voisins. Et on se retrouve juste après Ténor, conseil gratuit.
Les gens adorent se parler les conseils. Faut rester tranquille, père, donne sans attendre un retour. Ils nous donnent souvent les conseils. Le mal est bien si on te gifle tant l'autre jour. Ils ont les bons conseils du genre, tout est bien, tu finis bien. Les bons conseils du genre, il faut partager ses biens. Si seulement rien ne t'est payé, le bailleur veut son loyer. Malheureusement, la vie, si ce n'est pas l'eau, ça saillit. Quand quelqu'un te rend un service et qu'il te dit c'est gratuit, mon père, il attend quand même un merci. Elle te dit je t'aime, je ne suis pas matérialiste. Mais quand elle arrive chez toi, elle attend l'argent du taxi. Le prince dit la messenger pendant la 10 000, c'est en fonction de ce que tu donnes que Dieu va te bénir. Ma mère m'avait dit que mon fils, méfie-toi. On ne vend pas la femme, mais ton père a payé la dot. Rien n'est gratuit, un conseil gratuit. 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 Quand c'est gratuit ça, quand c'est gratuit ça, quand c'est gratuit ça, quand c'est gratuit ça. Qui te conseille de partager ce mot que quand tu n'as plus rien. Le foirage a ses raisons que la raison ignore. C'est à la mort qu'on se souvient. En vivant, c'est ce que tu deviens. La vie, si là, c'est choisir qui tu deviens d'abord. iPhone 16 ou employé 16 maçons. Ou les histoires qu'on ne garde pas l'argent de la boisson. En haut, en bas, tu tiens de choisir les caleçons. Mais il y a des conséquences, mon type, parce que rien n'est gratuit. Quand quelqu'un te rend un service et qu'il te dit c'est gratuit, mon père, il attend quand même un merci. Elle te dit je t'aime, je ne suis pas matérialiste. Mais quand elle arrive chez toi, elle attend l'argent du taxi. Le prêtre dit la messenger pendant la 10 000, c'est en fonction de ce que tu donnes que Dieu va te bénir. Ma mère m'avait dit que mon fils, méfie-toi. On ne vend pas la femme, mais ton père a payé la dot. Rien n'est gratuit, un conseil gratuit. 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 Quand c'est gratuit ça, c'est boss, comme ça fait le beat. Et si tu veux ce genre de beat, ce n'est pas gratuit. Conseil gratuit, y'a le well Salazar.
Ouais, c'est pas vraiment une pause hein, dans le débat musical avec Ténor, l'artiste camerounais qui chante conseils gratuits. C'est la sélection de Romain Dubrac, des conseils gratuits. Pas vraiment de quoi effectivement faire une pause dans la fatigue informationnelle. C'est notre sujet aujourd'hui et vous pouvez bien sûr nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On en discute avec nos invités. Sylvain Parasi qui est sociologue au Media Lab de Sciences Po Paris et Steven Jambeau qui est journaliste et vous présentez bien sûr l'émission Maison RFI, l'atelier des médias sur RFI et en podcast. À réécouter quand ça vous chante. Et bien sûr, vous pouvez nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Mazabolo.
Oui, bonjour.
Alors vous n'êtes jamais rassasié d'informations parce que vous avez dit à Delphine au Standard que, au contraire, vous avez tout le temps l'impression de ne pas être suffisamment informé.
Oui, bien sûr. Moi, je suis pas submergé par l'information, parfois compte tenu du temps que je n'ai pas par rapport au travail et tout. Mais quand même, pour le choix des informations, c'est un fast-tout que je m'informe. Par exemple, des sujets un peu culturels, religieux, je n'aime pas trop, je ne m'intéresse pas trop à ça. Mais les informations telles que sur le plan scientifique, socio-économique ou du développement ou de la technologie, j'aime vraiment m'informer et aussi de la politique, parfois du sport. Donc, compte tenu de mon temps, je n'ai pas trop ces informations. Donc, souvent, j'écoute les médias comme France, RFI et d'autres médias comme BBC et aussi la télé comme France 24 et d'autres chaînes.
Mais alors, vous utilisez un VPN pour capter les chaînes russes ou chinoises francophones. Ça veut dire que vous n'en avez jamais assez, finalement, Mazzabolo?
Oui, parfois, pour avoir un équilibre dans l'information, parce que quand les chaînes occidentaux diffusent des informations, souvent aussi, il faut aller aussi sur des chaînes chinoises et russes pour avoir une idée aussi des réalités de ces pays et comparer les informations que j'ai eues dans d'autres pays ou sur d'autres chaînes nationaux et internationaux.
Parce que vous ressentez une forme de défiance quand vous écoutez les infos dans différents médias?
Voilà, quand j'écoute les infos pour ne pas tomber dans les fausses informations. D'ailleurs, c'est pourquoi je n'aime pas trop les réseaux sociaux pour m'informer, juste peut-être pour divertir. Sinon, je ne m'informe pas à travers des réseaux sociaux, au moins des chaînes fiables. Donc, pour ne pas avoir des fausses informations, je dois toucher quelques grands médias pour pouvoir vraiment comparer l'information.
Donc, si je comprends bien, vous faites une sélection, ce qui vous évite d'avoir cette sensation d'épuisement par rapport à l'information.
Oui, voilà, c'est ça. Je sélectionne les grands médias et aussi être sûr que l'information est fiable et n'est pas une fausse information.
Steven Jambeau, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de Mazzabolo? Finalement, réduire les réseaux sociaux, s'abonner à des médias et faire sa sélection et comparer.
Moi, ce que je trouve très bien dans le témoignage de Mazzabolo à Cotonou, au Bénin, c'est qu'il décide de suivre les médias dont il a envie, qu'il est donc curieux, qu'il a besoin de tout cela pour être en mesure d'avoir une vision globale et de se forger son opinion. Ça, c'est très important. Après, ce qui peut être compliqué, et Mazzabolo n'est peut-être pas l'exemple parfait, c'est qu'effectivement, on a du coup toujours une radio ou une télévision qui tourne en fond, et puis ça peut faire beaucoup. À quel moment on se repose, à quel moment le cerveau humain qui a besoin de se reposer peut réussir à emmagasiner toutes ces informations.
D'autant plus, Mazzabolo, que vous suivez des médias qui ont probablement une version radicalement différente de l'actualité, de l'interprétation de l'actualité. Quand vous nous dites que vous suivez RFI, France 24, tout comme des chaînes russes ou chinoises avec leur version francophone, ça veut dire que vous avez quand même des analyses très différentes.
Oui, souvent j'ai des analyses un peu différentes.
Ça ne vous déstabilise pas, ça?
Non, ça ne me déstabilise pas. Je prends toutes ces informations et puis bon, avec ça, je vais voir la réalité. J'ai dit oui, l'actualité, là, voilà, si, voilà, ça, et puis bon. Cela ne me dérange pas quand même sur ce point.
Merci à vous, en tout cas, Mazzabolo, de nous avoir appelés. Vous pouvez continuer de nous téléphoner au 33 7 64 45 51 41. Steven?
Oui, pour rebondir juste sur ce que dit Mazzabolo, qui dit donc regarder, écouter des médias du monde entier, il faut aussi comprendre qu'il y a derrière certains médias une vision du monde, des choix éditoriaux que l'on ne peut pas toujours mettre sur un même plan. Nous sommes sur RFI actuellement, média français de service public international. Lorsque l'on écoute une chaîne, un média d'État chinois ou un média russe, il faut savoir comment ces médias sont financés, comment ces médias sont dirigés, et les conférences de rédaction dans ces pays-là ne sont pas souveraines et donc ne sont pas en mesure de choisir ce qu'elles mettent à l'agenda, et parce que derrière il y a des pressions, des enjeux. Mais face à tout cela, le citoyen effectivement peut se dire, moi, j'ai envie de mieux m'informer, donc d'écouter tout ce qui se dit, mais il faut être conscient que derrière, il y a des prismes, sachant qu'une personne bien informée est un citoyen et qu'une personne qui est mal informée peut être un simple sujet.
Voilà, c'est ce qui s'appelle remettre les pendules à l'heure. Sylvain Parasy?
Oui, moi je trouve ce témoignage est très très intéressant. Ce qu'on voit, c'est que que, en fait, notre auditeur, il fait un travail journalistique pratiquement, ou en tout cas très proche, en nombre de sources, en temps consacré à la lecture des informations, au visionnage,
et pourtant,
etc.
Pourtant, il dit qu'il parfois il a l'impression de ne pas être assez informé. Hein,
bien
donc
sûr,
il en a jamais
bien sûr,
assez.
Bien sûr. Et en même temps, je trouve qu'il y a un geste derrière qui est très très contemporain aussi, qui est un geste critique. Hein, on le sent, c'est quelqu'un de très poli, de très bien élevé et qui sait nous parler, mais qui en même temps est porteur d'une critique, c'est-à-dire de dire je suis dans un contexte national,
j'ai envie d'aller voir ailleurs aussi.
Il y a des choix qui sont faits. Quel regard j'ai sur la manière dont ces choix éditoriaux sont faits, j'ai besoin d'aller plus loin, avec effectivement derrière tout un ensemble de... Ça demande du temps, ça demande des compétences, c'est très compliqué.
Vous restez avec nous, vous pouvez bien sûr continuer de nous téléphoner, les voisins et les voisines. Hein. On parle de cette fatigue informationnelle au 33-7, 64-45, 51-41, 8 milliards de voisins, on est vraiment au cœur de ce stress informationnel. Et je ne parle pas du stress des journalistes qui couvrent l'actualité des conflits, mais du stress des usagers de l'information, des informations qui sont parfois trop compliquées, trop négatives ou pas assez fiables et qui peuvent conduire à couper le robinet de l'info et à dire depuis que j'ai coupé, ça va beaucoup mieux. On en discute dans quelques instants avec Augustin Perrault qui nous rejoint.
8 milliards de voisins et de voisines.
Et aujourd'hui, on dit quoi ?
Augustin Perrault, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue chez 8 milliards de voisins. Vous êtes coordinateur des programmes de Reporters d'Espoir, qui est une association qui a pour mission de promouvoir dans les médias une information porteuse de solutions. On dit souvent que le journaliste n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Alors, que propose concrètement Reporters d'Espoir ?
Alors, Reporters d'Espoir est une association qui existe maintenant depuis 19 ans et qui se consacre, comme vous l'avez dit, au journalisme de solution. Alors, c'est-à-dire que journalisme de solution, c'est un journalisme qui met en avant, évidemment, les catastrophes, les problèmes et tout ce qui dysfonctionne dans la société, mais qui met face à ces problèmes des solutions qui sont portées par des collectivités publiques, des individus, des entreprises privées, des associations. Et l'objectif, en fait, est d'inspirer les gens et aussi de présenter peut-être, d'être le reflet d'une réalité un peu plus complexe. Parce qu'en fait, dans le monde, rien ne va mal, rien ne va bien. Et souvent, la société se situe un petit peu entre les deux. Et donc le rôle du journaliste de solution, en fait, est de remettre un petit peu de contexte là-dedans et de proposer des solutions, parce qu'il en existe, de proposer de les mettre en avant à minima. Et nous, Reporters d'Espoir, à travers nos différentes actions, donc on a des prix, on a une revue qui en est à deuxième édition et qui fait l'agrégation finalement du meilleur des articles de solutions parus dans la presse. On a une plateforme pour aider les journalistes à retrouver et à sourcer des initiatives. Voilà. On a une sorte de panoplie d'actions comme ça pour mettre en avant le journalisme de solution dans les médias et les convaincre de l'adopter.
Ouais. Est-ce que ce n'est pas tout de même un journalisme... Alors, on a compris que ce n'est pas du journalisme forcément positif, mais est-ce que ce n'est pas un journalisme qui a de nombreuses limites ? Ça s'applique plus difficilement aux conflits à l'heure actuelle. Ça s'applique plus difficilement aussi au réchauffement climatique à l'heure actuelle.
Alors, oui et non. En fait, nous, par exemple, l'année dernière, pour le prix Reporters d'Espoir, on a thématisé la catégorie presse écrite, guerre et conflit. C'était justement pour prouver qu'on peut faire du journalisme de solution partout. Alors, vous avez raison tout de même, avec certaines limites. Je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait faire du journalisme de solution, par exemple, avec la guerre en Ukraine aujourd'hui. Par exemple, Delphine Minuit pour le Figaro fait régulièrement des papiers de solutions dans des zones de conflit. Elle avait fait quelque chose à Alep avec les djihadistes et elle avait mis en avant une initiative d'une bibliothèque qui s'était créée un petit peu clandestinement. C'est une solution qui ne répond pas aux problèmes de guerre, mais c'est bien une solution dans une zone de conflit. Il existe
une forme
aussi
de résilience, à défaut d'être une vraie solution, une forme de résilience en tout cas.
Exactement, exactement. Et on trouve aussi du journalisme de solution d'investigation, qui est souvent une étude un peu comparative de ce qui se passe mal quelque part et ce qui se passe bien ailleurs. Donc le journalisme de solution, on peut le pratiquer avec certaines limites, vous avez raison, mais si dans des zones de conflit, il est possible de le faire, en effet, en montrant des histoires de résilience.
Steven Jambot et Sylvain Parasi, est-ce que vous pensez que le journalisme de solution pourrait être justement une solution à la fatigue informationnelle, Steven Jambot ?
Moi, je me dis qu'il faut que les journalistes sachent se regarder dans le miroir et pas seulement se regarder le nombril. En fait, ils ont un rôle démocratique. Ils sont là non pas pour dire « faites comme ci, faites comme ça », mais plutôt pour donner à penser. Et donner à penser, ça veut aussi dire être en mesure d'inspirer. RFI, on est un médias là pour informer, on est là aussi pour divertir avec nos émissions musicales, nos émissions sportives, mais aussi on a un rôle qui est celui d'inspirer, de dire une initiative quelque part dans le monde peut faire germer des idées dans la tête d'autres personnes à un autre endroit complètement à l'opposé sur la planète. Et en cela, le journaliste de solution montre eh bien, qu'il y a des gens qui se bougent, qui font des choses, et les médias se doivent d'être l'écho de ça, parce que ben, on a tous envie de savoir comment faire dans notre quotidien pour l'améliorer.
Comment ont-ils fait ailleurs, ouais. Voilà. Comment font les voisins ? Sylvain Parasi, c'est quand même assez souvent relié à la conduite du changement. Et on sait que faire changer les choses, faire changer les mentalités, c'est très long, c'est très compliqué.
Oui, je trouve que c'est une initiative très, très intéressante. D'une manière générale aussi, ça demande aussi sans doute des ressources importantes. Hein. C'est-à-dire qu'on sort du flux de l'information classique et il faut sans doute...
On est plus suiviste, c'est ça.
On est plus suiviste et puis j'imagine que même en termes d'organisation, il faut embaucher des gens compétents, etc. Donc c'est quelque chose qui demande plus de ressources aussi pour produire l'information. Ça, c'est très, 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 très intéressant. D'une manière générale, c'est vrai que l'information, quand elle est sélectionnée, c'est qu'à un moment, c'est quelque chose qui se passe dans le monde et qui est quand même thématisé comme un problème par des gens. Et d'ailleurs, une grande partie du ressort aussi des médias, c'est aussi l'indignation. Voilà, c'est aussi intéressant pour les lecteurs ou les spectateurs de partager une indignation. Mais cette façon d'aller plus loin, je la trouve très très constructive, effectivement, assez éloignée d'un journalisme... Enfin, voilà, selon les cultures nationales, c'est très... Nous, en France, on est plutôt assez éloignés de ça, hein, de ces pratiques-là, et je les trouve très intéressantes.
Augustin Perrault, vous participez à former des journalistes, hein, à Reporters d'Espoir. Alors, le journalisme de solution, est-ce qu'il y a du faux journalisme de solution, par exemple ?
Alors, je ne sais pas s'il y a du faux journalisme de solution. Nous, chez Reporters d'Espoir, on a mis en place une méthode de journalisme de solution et on considère qu'il y a certains points qui sont absolument cruciaux. Par exemple, avoir un regard critique qui est propre au métier de journalisme sur ces solutions. Il peut arriver qu'on tombe en effet sur des articles qui sont un peu trop élogieux, je dirais, qui mettent trop en avant une initiative et qui n'en présentent pas les limites. Et nous, c'est ce qu'on appelle chez Reporters d'Espoir du journalisme positif. Et ce n'est pas ce qu'on promeut finalement dans les médias. Nous, ce qu'on veut, c'est véritablement un journalisme constructif qui présente aussi les limites des solutions qu'il met en avant.
Des exemples, là, en ce moment, par exemple ?
Oui, en vrai, il y en a vraiment beaucoup. Ils ne se revendiquent pas tous de solutions. En ce moment, on est en train de faire la veille des différents prix de Reporters d'Espoir. Il y en a beaucoup sur les médias publics, sur les médias privés. Je n'ai pas un exemple particulier en tête parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Hein. Ce n'est pas quelque chose, c'est pas des exceptions par-ci, par-là. C'est très, très courant à la télé. On en voit aussi beaucoup sur du papier. Il y a énormément de pure players aussi qui se consacrent uniquement aux journalistes de solutions qui émergent de plus en plus. Et on s'aperçoit que les grands médias se mettent aussi aux journalistes de solutions. Peut-être un exemple, il y a TF1 qui fait la France des solutions et qui fait du journaliste de solutions, qui d'ailleurs, France des solutions, était un événement de Reporters d'Espoir et qu'on avait fait avec TF1.
En fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire que les médias ont toujours tendance à parler des trains qui arrivent en retard plutôt que des trains qui arrivent à l'heure. Voilà, c'est une métaphore qu'on utilise très souvent. Mais les journalistes sont là, effectivement, pour s'intéresser aux faits. Ils doivent avoir un regard curieux. Ils doivent réaliser leur travail d'enquête. Un travail d'enquête, eh bien, on est censé partir vierge, j'ai envie de dire. En tout cas, ne pas arriver avec un regard biaisé, même si on ne peut pas être objectif. Ça, il faut le dire aux auditeurs. On a forcément un regard qui a une pointe de subjectivité du fait de notre parcours, de notre façon de vivre, etc. Mais en tout cas, on ne peut pas partir débarrer une enquête ou faire du journalisme de solution en se disant c'est là qu'on veut aller. Non, c'est le parcours, le cheminement qu'il faut réussir à raconter. Et ça, c'est important aussi pour les auditeurs, pour les téléspectateurs, pour le grand public, que de comprendre les cuisines de l'info. D'essayer, nous, journalistes, d'expliquer comment on a fait pour arriver à cette information, les impasses que l'on a pu rencontrer parfois dans notre dans notre métier. Et donc de se dire que face à tout cela, eh bien, on a un rôle social et un rôle démocratique.
Steven Jambot, ça c'est une question pour vous, qu'on doit sûrement vous poser régulièrement à l'atelier des médias. Une question de Camille, qui est un auditeur à Brazzaville, qui veut poser sa question en direct. Ben, on va le prendre en direct. Bonjour Camille, soyez le bienvenu.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez une question à poser sur l'info sur RFI, Camille.
Oui, parce qu'il y a un des intervenants du plateau qui a semblé dire que, parce que vous avez reçu un invité tout à l'heure, qui disait qu'il s'informait auprès de plusieurs médias, donc francophones comme les médias francophones d'autres pays.
Oui, un auditeur, en effet, c'était un auditeur et pas un invité qui disait qu'il écoutait via des VPN, qu'il captait des chaînes russes et chinoises en langue française pour avoir d'autres regards que Radio France Internationale et France 24 notamment.
Oui, effectivement. Après, il y a un des intervenants qui doit être sur le plateau, comme expert certainement, je ne sais pas très bien, qui a dit par exemple, RFI était financé par le gouvernement français, donc il était indépendant comparativement à d'autres types de médias.
Alors, qui sont eux-mêmes financés par des gouvernements, vous faisiez allusion donc à des médias russes ou chinois, c'est ça, vous vous dites finalement, comment RFI peut être indépendante, c'est ça la question, hein, si je comprends bien.
Exactement.
Steven Jambot, est-ce que vous voulez bien lui répondre ?
Alors en gros, c'est de vous expliquer que RFI est un média donc de service public international qui effectivement, jusqu'à il y a peu, était financé par le contribuable français via la contribution à l'audiovisuel public, qu'on appelle souvent la redevance. Donc c'est une dotation annuelle qui fait que chaque ménage français versait, jusqu'à il y a peu, de l'ordre de 135 € par an pour financer ces médias-là. Mais ensuite, France Média Monde, donc qui est la maison mère de RFI et France 24, c'est elle qui supervise France Média Monde, son fonctionnement, et les rédactions en dessous sont censées et sont, je peux vous l'assurer, totalement autonomes dans leur traitement éditorial. Les conférences de rédaction ici au sein de RFI et de France 24 sont totalement indépendantes. Il n'y a personne du gouvernement français qui vient dans la rédaction en disant il faut parler de ceci ou, au contraire, ne pas parler de cela. Ce n'est pas toujours le cas dans les médias, qu'ils soient russes, par exemple, Russia Today, ou chinois. Par exemple, pour juste aller au bout de la chose, écoutez mon émission L'Atelier des médias où j'avais parlé de Radio Chine Internationale, qui donc est une radio internationale chinoise qui fait le choix de traiter de certains sujets et de ne pas parler d'autres sujets. Elle va parler de l'Afrique qui réussit, c'est très très bien, mais elle ne parlera pas d'affaires politico-financières dans le pays. Pourquoi ? Parce que c'est un choix de ne pas rapporter ces faits-là. Et nous, au sein de France Média Monde, au sein de RFI et France 24, nous considérons qu'il est de notre rôle, de notre mission de médias de service public international, que de rapporter l'ensemble de l'actualité, y compris celle qui dérange et qui peut faire mal.
Et il faut préciser aussi, Steven Jambot, qu'il y a une place très large accordée aux syndicats de journalistes, qui sont des syndicats professionnels, pour défendre également une information libre et indépendante.
Tout à fait. En fait, c'est l'idée de se dire qu'il y a des représentants des journalistes, qu'il y a des associations professionnelles, qu'il y a des garde-fous, qu'il y a un cadre juridique derrière tout cela qui fait qu'on ne peut pas dire n'importe quoi, mais que nous n'avons pas, et je peux vous l'assurer, nous n'avons pas sur l'antenne de RFI à nous auto-censurer et nous n'avons pas peur, et nous n'avons pas à avoir peur d'être censurés.
Ça ne veut pas dire effectivement que nous ne sommes pas comme nous, tout le monde, on peut être victime des fake news et évidemment on doit y prendre garde. Camille, est-ce qu'on a répondu à votre question ?
Oui et non, parce que je n'ai pas dit que vous n'étiez, qu'il y avait des sujets tabous. Effectivement, je comprends que sur certains médias russes ou chinois, il pourrait y avoir des sujets tabous qui ne passent pas. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais d'autre part, dire que les médias comme RFI, par exemple, LCI et tous les médias qu'on peut suivre qui parlent français puisqu'on est pays francophone, dire qu'ils n'ont pas de parti pris, moi j'en doute parce que si on prend la conjoncture actuelle depuis que le conflit entre l'Ukraine et la Russie a éclaté, quand on suit les chaînes d'information continues françaises, on a l'impression que les journalistes ont des partis pris, c'est-à-dire qu'ils ne traitent pas l'information de manière impartiale. Et c'est ça, en fait.
Ce que je constate, en tout cas, Camille, vu comme vous comparez les médias, c'est que vous ne souffrez pas de fatigue informationnelle. Vous n'en avez jamais suffisamment.
Non, du tout. Parce que je suis tout le temps sur Facebook. De temps en temps, je suis LCI, BFM TV, mais puisque ils ont des pages Facebook, donc du coup, je suis abonné à ces pages et donc je reçois de manière régulière. Et puis voilà.
Ça sera le mot de la fin. On aurait aimé continuer à discuter avec vous. En tout cas, merci de nous écouter, Camille. Malgré, si j'ai bien compris, parfois un petit sentiment de défiance.
Qu'il faut qu'on soit en mesure d'entendre aussi. Voilà. Mais après, c'est important que les auditeurs fassent preuve d'esprit critique et fassent preuve de bon sens aussi face à tout cela.
Ça sera le mot de la fin. Merci à vous tous. Merci Camille pour votre appel. Merci Steven Jambeau. On vous retrouve pour l'atelier des médias sur RFI avec l'appli Pure Radio et à la radio le dimanche matin à 11h10, temps universel. Merci à vous Sylvain Parasi, sociologue au Media Lab de Sciences Po Paris. Et merci à vous Augustin Perrault de Reporter d'Espoir. On se quitte avec Zouko, un petit peu de bossa, pour reposer son esprit juste avant de reprendre le fil de l'info sur RFI, bien sûr. De voisins, on se retrouve demain pour parler éducation et tout particulièrement du redoublement. Vous réécouterez notre émission. Si vous êtes parent ou enseignant, comment est vécu le redoublement par les élèves? Une chance ou un traumatisme? À l'échelle d'un système éducatif, le redoublement est-il vraiment efficace pour améliorer le niveau scolaire? On en parle demain.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest.